Hay un caso de Natal. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est une de vos voitures au cas d'engage. Je en combinant les deux, je suis de mes présidents trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, merci d'écouter Radio Capi qui vous propose ce lundi 19 décembre parole aux auditeurs. C'est depuis le jeudi 15 décembre dernier que s'est clôturée dans les deux chambres du Parlement la session du mois de septembre 2011. Pour l'Assemblée nationale, cette session qui s'est terminée sur un bout d'inachevé est la dernière de cette première législature de la Troisième République. Elle s'est clôturée sans adoption du budget 2012. Au Sénat, les travaux vont se poursuivre avec la session de mars 2012. Dans son discours de clôture, Évariste Beauchamp, président de l'Assemblée nationale, s'est dit satisfait que son institution ait voté le pays de nouveaux textes qui ont consacré des réformes majeures dans les secteurs de l'armée, de la justice, de la police, de la décentralisation, de l'audiovisuel, de l'organisation des élections. Ces textes adoptés par l'Assemblée nationale ont été promulgués par le président de la République. Tout en saluant le nombre de textes produits, les députés de l'opposition et de la majorité déplorent cependant la faiblesse du contrôle parlementaire. Comment jugez-vous le travail de l'Assemblée nationale pendant ces cinq dernières années? Nous en parlons au téléphone avec le professeur Jean-Pierre Mboubouakalala, analyste politique et professeur des sciences politiques. Pitimpoutou, Clovis Louboula sont à la réalisation de cette émission mise en monde par Mimikindou. Pierrot et la Maison vous la présente, fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs par internet ca@radiookapi.net. Cette émission Parole aux auditeurs est une rediffusion.
Comme je venais de le dire, nous faisons avec vous le bilan des 5 ans de l'Assemblée nationale, parce que la dernière session, bien sûr, s'est clôturée. C'était le jeudi 15 décembre dernier, et l'Assemblée nationale qui a pour mission, comme l'Assemblée du Parlement, du pouvoir législatif, comme on l'appelle, de pouvoir adopter des textes juridiques pour régir la nation, mais aussi contrôler le fonctionnement des institutions, c'est les gouvernements et d'autres entreprises, bien sûr, qui ressortent du portefeuille de l'État. C'est la mission, bien sûr, du Parlement. Pendant 5 ans, comment vous, auditeurs des Radio Capi, vous, électeurs, vous jugez le travail abattu par l'Assemblée nationale? Vous pouvez nous appeler au 081-890-6315, 081-890-6315, pour intervenir en direct, mais aussi réagir par l'adresse électronique pa@radiocapi.net. Professeur Mboubouakalala, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui.
Nous allons vous garder le temps d'écouter les auditeurs qui vont nous dire ce qu'ils pensent du travail de l'Assemblée nationale, parce que c'est elle qui a clôturé la dernière session, les séances, ça sera l'année prochaine. Et nous allons revenir à vous pour commenter, orienter, éclairer les auditeurs par rapport à leur point de vue. Nous avons Évariste qui est à Lubumbashi. Bonjour Évariste.
Bonjour Pierrot et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
L'Assemblée nationale a clôturé sa session. La dernière session, bien sûr, pour cette législature, c'était le jeudi dernier. Vous, à Lubumbashi, vous avez des députés qui ont siégé au sein de l'Assemblée nationale, qui étaient élus dans la circonscription électorale, bien sûr, de Lubumbashi et dans l'ensemble de la province du Katanga. Au regard du travail accompli par ces députés, comment jugez-vous cela, Évariste?
Bon, le bilan, selon moi, des députés de la circonscription de la ville de Lubumbashi, là où j'habite, et pour qui j'avais porté mon choix en 2006, n'a pas été du tout positif, puisque les lois, bien sûr, telles que le président de l'Assemblée s'est permis de se féliciter que les lois ont été votées en masse, mais ces lois n'ont pas eu un impact très positif sur certains. Dans l'exécution de ces lois, on n'a pas vu vraiment, disons, les impacts positifs concernant leur rejection. C'est ce que je peux dire en quelque sorte. Pourquoi? Puisque les problèmes souvent soulevés par la base que nous sommes n'ont pas été résolus jusque-là, les lois ont été votées, mais qu'est-ce que ces lois ont apporté comme fruit ou bien comme disons, résultat par rapport aux problèmes qui sont sociaux, qui connaît bien la population.
Évariste, s'il vous plaît, vous savez, comme on l'a dit, l'Assemblée nationale fait son travail et elle adopte la loi qui est promulguée par le chef de l'État, mais d'un côté, nous avons ce qu'on appelle le pouvoir exécutif qui doit exécuter, n'est-ce pas, pour que vous puissiez ressentir cela dans votre vie, c'est au niveau du gouvernement que les actions sont menées. Mais qu'est-ce que vous pensez que les députés de Lubumbashi pouvaient faire au-delà du fait d'adopter, d'adopter participer à ce travail d'élaboration et d'adoption des textes juridiques? Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire au-delà, Évariste?
Monsieur, vous savez que l'Assemblée a pour mission que le contrôle, il y a ce qu'on appelle le contrôle parlementaire. Combien de contrôles initiés ont abouti à des résultats positifs? Je veux faire revenir là. Est-ce qu'on a initié, disons, des contrôles, disons, dans certaines entreprises publiques ou des professions de l'État? Les contrôles, ça bien ça a été initié. Ça nous a amené à quoi? Ce sont des contrôles fantaisistes. On a est-ce que nous avons vu un ministre interpellé, être intentionné par le Parlement durant toute cette législature? Non. Alors ça prouve en suffisance que le bilan, il ne faut pas parler d'un bilan positif. Puisque nous avons remarqué qu'il y a eu des faillites. Les lois, oui, bien sûr, nous acceptons, nous avons vu tout ce que les lois ont été légiférées, votées, tout ça sanctionné par le chef de l'État. Mais qu'est-ce que ça donnait comme impact sur le terrain? C'est ça le plus grand problème. Et cela, dans une fine en conclusion, je dis que tout le travail abouti reste négatif. On peut avoir fait quelque chose de bien, mais à la fin, qu'est-ce que ça donne? C'est ça, les résultats sur le terrain, qu'est-ce que ça donne de tout ce travail abattu? Un résultat négatif.
Merci.
Aucun ministre n'a été interpellé, même le ministre interpellé. Et à la fin, est-ce que nous n'avons pas constaté qu'il y a toujours beaucoup de faillites, des plaintes de la part de la population, et jusqu'à présent?
Merci, Évariste. Vous pensez que le travail abattu par l'Assemblée nationale, parce qu'on parlait de l'Assemblée nationale, est négatif, dans le sens qu'il y a eu beaucoup de lois, bien sûr, votées, c'est normal, mais vous n'avez pas senti l'impact. Et même, des ministres qui ont été interpellés, il n'y a pas eu de sanctions de surveillance qui ont suivi, voire même les entreprises, tout ça, des problèmes ont continué. Vous auriez souhaité qu'ils puissent avoir le changement, que vous puissiez vivre ces changements-là. Merci beaucoup, Évariste Malonga, vous êtes à Bandundu, bonjour.
Bonjour, M. Perrault.
Et que pensez-vous, vous, du travail abattu par l'Assemblée nationale pendant ces 5 dernières années?
Oui, d'abord, normalement, je peux les féliciter d'abord au plus qu'ils arrivent à terme de leur service. Mais ce que moi, je peux ajouter de mon confrère et de Lubumbashi, c'est en tout cas, législatif qui vient de ce pays, bien maintenant, est vraiment puissant pour le contrôle. Par exemple, ici chez nous à Bandundu, pour contrôler vraiment ce que l'exécutif a fait, en tout cas nous n'avons pas vu vraiment l'impact de l'expérience. Raison pour laquelle ici chez nous voyons que nous étions vraiment privés, malgré nous avons représenté par un seul siège, mais nous avons aussi des priorités d'être défendus là-bas par d'autres. Par d'autres députés d'ailleurs. Ici, la ville est vraiment, en tout cas, M. Perrou, je vous dis, non, c'est très sale. Hein? Bon, ce n'est pas la faute au législatif, mais c'est la faute de
l'exécutif.
C'est l'exécutif qui doit faire sous pression de
législatif.
Or, notre législatif n'a rien fait. Mais du point de vue constitutionnel, en tout cas nous le félicitons. Le premier président de cette chambre a bien travaillé. L'autre qui est là, honorable Bochev, a bien fait. Et ils nous font arriver aux élections à Canby. En tout cas, c'est une félicitation.
Merci.
Prochainement, il faut qu'ils nous suivent. Faut qu'ils nous suivent et que nous ferons aussi là-bas. Ils sont dans l'obligation d'avoir une pression. Nous n'avons pas eu une censure vraiment efficace au ministre et
au mandataire. Voilà, merci beaucoup, Malonga. Merci, Malonga, vous avez presque raison, Évariste, hein, vous êtes attardé aussi sur le problème du contrôle de l'exécutif. On n'a pas senti vraiment que l'exécutif a été contrôlé, il n'y a pas eu de sanctions. Merci, nous allons écouter Jean-Baptiste Kisangani et donner la parole au professeur Mbeboa. Jean-Baptiste, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous avez suivi les deux premiers auditeurs et tous ils disent qu'il y a eu des problèmes sérieux au niveau du contrôle de l'exécutif par l'Assemblée nationale. Et vous, quel est votre point de vue? Est-ce que vous pensez qu'il puisse être fait au-delà de ce que l'Assemblée nationale a pu faire pendant ces 5 ans?
Oui, en tout cas, je suis du même avis que les deux les interlocuteurs qui sont passés avant moi.
Mmh.
Et je voudrais ajouter une chose de plus capitale. Cela montre combien le pays est mal géré parce que le Parlement a adopté un mauvais système de la majorité. Et c'est ce qui a fait qu'il y a un clientélisme terrible au sein du Parlement, qui a fait qu'il n'y ait pas de contrôle parlementaire et que les députés ne fassent rien pour l'expulsion à toutes les lois qui ont été votées par les parlementaires.
Mmh.
C'est pas la réalité des choses.
Merci beaucoup Jean-Baptiste. Hein. Vous êtes tous revenus sur la faiblesse du contrôle parlementaire. Les députés d'ailleurs ont reconnu. On pourra voir un député de chaque camp pour pouvoir expliquer pourquoi il y a eu cette faiblesse au niveau du contrôle de l'exécutif. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Nous allons dans quelques secondes remettre la parole à notre invité, le professeur Mbebois, pour commenter le point de vue de ces trois premiers auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Le professeur Mbebois, vous avez suivi les trois premiers auditeurs. Hein. Ils sont revenus tous très inquiets par rapport au contrôle parlementaire. Quand on regarde le bilan au niveau des lois, c'est dans l'ensemble presque une centaine hein, de lois adoptées, promulguées, les autres qui sont en discussion, les autres qui sont encore là, mais presque une centaine. Mais pourquoi il y a eu cette faiblesse au niveau du contrôle parlementaire, que ce soit pour le gouvernement, que ce soit pour les entreprises du portefeuille de l'État, comme se plaignent nos auditeurs, professeurs?
Voilà. D'abord, je constate que les intervenants qui parlent du Parlement, en fait, ils ont une opinion tout à fait négative du travail de ce Parlement,
mmh.
en termes d'efficacité, surtout du côté du contrôle.
Mmh.
Les lois ont certainement été élaborées, comme ils le reconnaissent, mais ils trouvent que le Parlement n'a pas été efficace du côté du contrôle. C'est aussi une des missions essentielles de ce Parlement, qui a agi au nom de tout le peuple. Et donc, dans ce sens-là, maintenant, la question de savoir pourquoi ils se sont comportés de cette manière-là, il me semble que c'est surtout à cause du poids un peu exagéré de parti sur le membre du Parlement.
Mmh.
Donc, le membre du Parlement recevait beaucoup de pression du côté de leurs états-majors de parti politique pour être complaisant envers certains gestionnaires, notamment les ministres. Et je crois que ce travail-là, disons, cette attitude a été très néfaste en termes de l'image du Parlement. Parce que les parlementaires ont plusieurs fois, à plusieurs reprises, interpellé les gestionnaires, les mandataires, voire les membres du gouvernement. Mais à la fin de toute cette interpellation, souvent, les parlementaires n'ont pas été conséquents. Au moment où ils doivent venir sanctionner, ils ne l'ont pas fait. Et l'opinion publique trouve quand même que de cette manière-là, le Parlement s'est mal comporté. Et donc, c'est ça qui donne un peu ce discrédit sur le travail du Parlement. Quand bien même le Parlement a souvent interpellé de manière beaucoup plus accablante les gestionnaires. Mais à la fin, ils n'ont pas été conséquents. Je m'imagine que c'est la discipline du parti qui a souvent joué, qui a souvent pesé pour que les députés puissent voter en faveur des membres de la majorité présidentielle qui gère. Et ça, ce n'est pas une bonne façon de voir les choses. Parce que vous voyez maintenant, un gouvernement qui gère, pour que le peuple ait confiance que cette gestion se fait bien, il est important que le peuple soit rassuré que ses représentants font le travail correctement en son nom. C'est ça qui a semblé ne pas se faire. Et je pense que les trois premières interventions mettent en avant cette inefficacité du Parlement du côté de la sanction. Parce que c'est bien de critiquer, mais si vous ne pouvez pas sanctionner, comment les gens vont se corriger? C'est ça la question de l'impunité qui se fait. Le parlementaire vient avec beaucoup de données, et comme il passe souvent en direct à la télévision, sur la RTNC 3, il passe en direct, donc les gens sont sensibilisés sur le fait qu'ils dénoncent, mais au moment où ils doivent sanctionner, ils deviennent complaisants, et ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas accepté dans l'opinion publique de plus en plus, comme on le voit, et je pense qu'au moment du vote, beaucoup de parlementaires doivent avoir été sanctionnés aussi pour cette raison-là. Donc je crois que c'est la question de l'esprit du parti. Il est important que dans le Parlement qui va venir, les parlementaires qui viennent d'être élus, tu vois comment le peuple est trop rigoureux au moment de donner la légitimité, quand ils viennent au Parlement, qu'ils ne soient pas complaisants envers les gouvernements, les membres du gouvernement, qui ne passent pas par l'effet des urnes. Vous voyez, les urnes, c'est pas facile. Alors, et ils passent par là, quand ils viennent au Parlement, ils deviennent complaisants avec des gens qui ne sont pas sanctionnés par le peuple. Donc, je crois que c'est aussi une question d'expérience. Nous sommes en train de nous mettre dans une culture. Chacun doit faire son travail correctement. Celui qui ne le fait pas correctement, c'est normal qu'il soit sanctionné. Et donc, les parlementaires n'ont pas été complaisants avec les membres du gouvernement ou avec les mandataires ou les gestionnaires des services publics quand ceux-là ne font pas correctement leur travail. Donc, ils doivent travailler objectivement et se montrer efficaces du côté de la sanction.
Et professeur, mais comment alors relier cela? Parce qu'il y a ce problème du poids des partis politiques sur le travail des députés, mais il y a ce problème qui est, c'est-à-dire que les députés devaient être en principe en connexion directe avec la base, ça veut dire la population qui l'a élue pour répondre à ses besoins. Mais comment on peut redonner, cimenter ces liens entre les députés qui est élu ainsi que sa base et éviter d'être sous ce poids du parti politique quand il s'agit bien sûr de faire le choix et de pouvoir sanctionner?
Non, vous savez, les parlementaires sont élus chacun sur la liste d'un parti politique. En quelque sorte, les parlementaires doivent refléter l'idéologie de leur parti. Donc, ils doivent travailler selon la philosophie de leur parti. Et donc, ça, c'est normal et ça se passe un peu partout. Mais la manière dont les parlementaires congolais l'ont fait durant cette législature n'a pas été conforme à l'esprit de justice. Ça veut dire qu'ils ont carrément protégé certains membres du gouvernement qu'ils ont vilipendés même, qu'ils ont dénoncés. C'est ça qui a choqué les gens de ce côté-là. Mais donc, le parti politique de leur côté aussi ne doit pas protéger leurs membres qui gèrent mal. Et pourquoi ils alignent les gestionnaires qui ne sont pas dignes? Parce que ces gens-là salissent l'image même de leur parti. Et qui fait que finalement, c'est important, comme nous sommes dans la voie de la démocratie, que le peuple ayant été sévère envers ceux qui gèrent, n'est-ce pas, les mandataires qui sortiront des urnes maintenant, tirent les leçons de cela. Et je ne crois pas que dans la prochaine législature, les députés, les parlementaires seront complaisants avec ceux qui gèrent, parce qu'ils ne gèrent pas. Et donc, ils doivent, au nom du peuple, exercer le contrôle que le peuple attend d'eux. Et donc, si le contrôle est exercé, les mandataires vont gérer correctement, les membres du gouvernement vont gérer correctement, rechercheront au moins l'efficacité dans leur travail, rechercheront aussi à être corrects dans leur travail, et c'est ça que tout le monde voudrait. Qui a intérêt que les gestionnaires soient inefficaces et qu'ils soient protégés comme ça pour tout ce qu'ils font? Il n'y a personne qui a intérêt d'instituer une telle gouvernance. Ça se décrier, se dénoncer dans le monde aujourd'hui. Tout le monde est appelé à travailler de manière correcte, d'être efficace, d'être transparent dans son travail. Pourquoi les gestionnaires congolais peuvent compter sur le parlementaire pour être couverts de cette manière-là? D'autant plus que le parlementaire est élu difficilement. Vous voyez, quand ils font la campagne, comment la population, les placards, les questions, ainsi de suite. Les membres du gouvernement, ils ne passent pas par ce feu-là. Et donc, le parlementaire, après avoir été là, il s'est engagé qu'ils vont défendre les intérêts de la population. C'est, en quelque sorte, une certaine trahison lorsqu'ils arrivent là, ils jouent ces
voilà.
Et moi, personnellement, je suis positif parce que je crois que la manière dont la population était très rigoureuse dans les votes va certainement obliger les parlementaires à se comporter autrement prochainement. Donc, c'est question faire un peu confiance à l'équipe qui va venir prochainement et dire aussi que nous sommes dans un apprentissage démocratique. Donc, on ne peut pas tout ça faire au même moment. Et donc, à partir des erreurs passées, prochainement, les gens vont se corriger et vont se... ils vont mieux faire.
Voilà, nous avons Josué qui nous appelle de l'Inde, trésor qui est à Colésine. Nous commençons avec vous, Josué. Vous êtes en Inde, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Josué. Vous avez suivi le professeur Mbeba. Comment il a pu expliquer les difficultés que les députés ont pu avoir par rapport à, au contrôle du gouvernement pendant ces cinq dernières années? Quel est votre point de vue, Josué?
D'accord, merci beaucoup de la parole que vous m'accordez. Je salue tous les auditeurs de Radio Capit qui me suivent de travers le monde. J'ai suivi le professeur, mais il y avait un petit problème technique. Je l'ai suivi un peu en cours. Et donc, là où je ne l'ai pas très bien suivi, là où je ne suis pas parfaitement d'accord avec lui, c'est là où il dit qu'il faudrait faire confiance à l'équipe qui va venir. Je crois qu'il a dit un truc comme ça.
Oui.
Voilà. L'équipe qui va venir, nous avons vu les élections ont bel et bien eu lieu dans notre pays depuis le mois de novembre passé. Nous avons déjà les résultats sont connus. Ce qui est sûr, c'est que nous aurons une législature qui sera identique, qui sera pratiquement similaire à la législature passée, c'est-à-dire qui sera issue de la majorité présidentielle. Et là, il faut qu'il ne sera pas toujours faire confiance à cette législature-là, d'autant plus que ils auront toujours des ordres à respecter, comme ils l'ont fait dans cette législature qui est en train de finir ou qui s'est terminée. Ils auront toujours des mots d'ordre. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour leur dire, voilà, il est de la majorité, tel ministre vient de notre famille politique, nous ne devons pas le sanctionner. Et ce sont ces mots d'ordre-là qui ont rendu nul le travail que les députés ont fait pendant toute la législature. Je pense que leur travail, du point de vue législatif, du point de vue des lois et maître des lois et consorts, tout le monde a félicité, puisqu'il y a eu beaucoup de lois qui ont été promulguées et ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça l'essentiel, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est de l'applicabilité de ces lois-là. Ils ont rendu leur travail nul quand ils ont été trop complaisants avec les différents membres du gouvernement qui passaient devant l'Assemblée nationale. Ils n'ont sanctionné aucun mandataire public. Ils n'ont sanctionné aucun ministre. Et là, ça rend nul le travail que les députés ont fait pendant ces cinq ans. Je pense que pour la législature prochaine, ce sera également la même chose. On a le même gouvernement, on a le même président, et je ne vois rien qui pourra changer quoi que ce soit.
Voilà, merci Josué. Vous pensez qu'il n'y aura pas de changement? Les députés ont été très complaisants envers le membre légitionnaire. C'est ce qui fait que vous pensez que ça risque d'être la même chose prochainement avec la nouvelle Assemblée nationale qui sera constituée d'ici le 13 janvier, je crois bien, quand les résultats seront connus des élections législatives nationales. Nous avons ici au pays Trésor Kétakolizi. Bonjour Trésor.
Bonjour.
Vous avez suivi l'inquiétude de Josué de l'Inde qui pense que le système des mots d'ordre a rendu les députés complaisants par rapport aux gestionnaires dans les contrôles, malgré le bon travail fait dans l'élaboration des lois. Et si on peut déjà se projeter dans l'avenir, que pensez-vous qui puisse être fait par les prochains députés pour éviter de tomber dans ces pièges des mots d'ordre et de se rendre inefficace par rapport au contrôle parlementaire?
En tout cas, merci. Je salue tous les auditeurs de la radio de la paix. Moi, je vous ai dit ceci. Premièrement, pour un peu aller dans le monde des députés avec le CETER, je voudrais dire que c'est juste, depuis que c'est tapé la patrine, ils ont bien travaillé pour dire que nous avons bien travaillé. Les résultats doivent se faire sentir au niveau de la population. Est-ce réellement qu'il y a des résultats qu'on peut même taper en patrine et dire que nous devons bien travailler? Vous ne continuerez pas de dire que si j'ai dit que combien de ministres ont été sanctionnés pour leur manquement grave vis-à-vis de nous, qui sont les souverains prisonniers. Encore, ils ont voté des lois à 95% pour leur bien, à leur profit. Nous avons profité de 5% seulement. Pour l'avenir, je pourrais dire que c'est mieux. Mais là, encore, réunir encore pour une fois, s'ils ont vraiment une bonne foi, ils doivent bien travailler pour les comptes de la population. Nous voulons voir réellement des résultats et des bons résultats. Alors, on aura un peu cette confiance-là de dire que nous avons au moins des gens capables de défendre la population.
Voilà, merci beaucoup, Trésor Ecology. Vous êtes très inquiet parce que vous n'avez pas vu vraiment le résultat du travail de l'Assemblée nationale des députés sur terrain. Et vous pensez qu'il faudrait que cela ne puisse changer prochainement. Nous avons en ligne M. Didier Molito. Vous êtes député national et secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle. Nous parlons de la clôture de la session, qui est la dernière d'ailleurs pour l'Assemblée nationale. Beaucoup d'auditeurs sont passés dans cette émission, tous sont inquiets par rapport à une chose, c'est la faiblesse du contrôle parlementaire. Comme vous d'ailleurs, vous l'avez aussi reconnu, ils vous ont beaucoup accusé d'avoir été complaisant envers les gestionnaires, il n'y a pas eu vraiment de sanctions. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, qui êtes bien sûr député, membre de la majorité, qu'est-ce qui a fait que l'Assemblée nationale, les députés, puissent avoir connaître cette faiblesse au niveau du contrôle de l'exécutif, M. Molito?
Oui, merci beaucoup. Je crois que la fois passée, j'avais donné quelques raisons. Parce que, vous savez, la République démocratique du Congo est un État fragile. Les premières élections qui ont eu lieu ont mis en place, certes, une majorité. Mais cette majorité dans l'apprentissage de la démocratie devait aussi fonctionner comme toutes les autres majorités à travers le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand il y a une motion qui vient de l'opposition, le principe veut que la majorité ne puisse pas adopter la motion qui vient de l'opposition. Bien sûr, on peut accuser la majorité de ne pas sanctionner son gouvernement, parce que le gouvernement est une émanation de la majorité. J'avais dit la fois passée que le résultat, pour ce qui est de la fonction de contrôle, le résultat était très mitigé. Et pour nous, c'est une leçon que nous devons tirer pour que la prochaine législature soit différente de celle que nous venons de terminer.
Mais vous avez dit, bien sûr, que ça, c'est un problème de principe. Si une motion vient de l'opposition, par principe, la majorité ne peut pas l'adopter. Mais il y a un problème de raison. Il y a aussi un problème de volonté. Supposons, par exemple, que ce qui est venu de l'opposition, qui n'a pas été mauvais, bien sûr. Mais si ce qui vient de l'opposition est une réalité, le problème est réel. Il y a un gestionnaire qui a mal travaillé. Il faudrait le sanctionner. Il faudrait peut-être le déchoir, tout ça. Faudrait-il qu'au nom de la majorité, on puisse rejeter cela? Et quand bien même la réalité est tout autre sur le terrain. Et comment on peut faire pour corriger cela? Parce que les auditeurs voudraient qu'il y ait prochainement que cela puisse être corrigé.
Oui, je crois qu'en interne, au sein de la majorité présidentielle, il y a eu beaucoup de débats. Ce que j'ai avancé, c'était un problème de principe. Mmh. Au niveau de principe, au niveau de l'Assemblée nationale, la majorité ne pouvait pas soutenir une motion qui vient de l'opposition. Mais en interne, au niveau de la majorité, il y a eu des voix qui se sont élevées pour dire qu'on ne devait pas continuer comme ça. Et c'est pour cette raison que moi, je reste convaincu que la prochaine majorité qui sera constituée va fonctionner différemment. Parce que nous sommes tous conscients d'une chose, et qu'au sein du gouvernement, il y a eu des problèmes. Même au sein de la majorité, on l'avait soulevé.
Mmh. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce qu'en écoutant les auditeurs, peut-être la dernière question, en écoutant les auditeurs, vous sentez qu'il y a cette cassure, n'est-ce pas, de confiance entre les députés et la population par rapport à ces résultats, parce qu'ils auraient voulu voir l'impact de cela sur le terrain. Comment faudrait-il aujourd'hui remettre cette confiance entre les élus et les électeurs afin qu'ils puissent palper vraiment, et bien sûr, l'impact de ces résultats, l'impact sur le terrain, que ce soit bien sûr pour la prochaine législature, parce qu'il y en a qui nous écoutent, peut-être qu'ils pourront revenir, qui est avec vous, ou soit les nouvelles personnes qui pourront s'ajouter.
Merci beaucoup, mais je crois que le message, il a été bien capté. Cette campagne électorale est forte de beaucoup d'enseignements. Je pense que la majorité qui sera constituée autour du président Kabila a capté le message 5 sur 5. On ne peut pas continuer à fonctionner autrement que de travailler pour l'intérêt du grand nombre. Et je pense que la population doit faire confiance. Et moi, je l'ai dit, parce que personnellement, je l'ai vécu, j'étais en campagne. Il faut agir autrement, l'intérêt qui s'y perd. Or, nous n'allons pas nous suicider. C'est pour cette raison que je dis, la population doit faire confiance. Le prochain mandat, il sera sous le signe de travailler pour l'intérêt public.
Merci, monsieur Didier Molisson. Je rappelle que vous êtes député national et secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle. Merci pour ces précisions. Nous avons Alex Kipisa-Kinshasa. Alex, vous gardez la ligne, nous allons revenir à vous.
Parole aux auditeurs.
Alex, bonjour.
Cette émission Parole aux auditeurs est une rediffusion.
Bonjour, monsieur.
Vous avez suivi le député national qui vient de s'exprimer, vous avez suivi aussi les compatriotes. Tout le monde est inquiet par rapport à cette faiblesse au niveau du contrôle des institutions, au niveau du Parlement, mais beaucoup de gens pensent que prochainement les choses vont s'améliorer. Et pour que les choses s'améliorent prochainement et que vous puissiez vivre l'impact du travail de l'Assemblée nationale dans la vie et de tous les jours, qu'est-ce que vous proposez, Alex?
Oui, moi, je viens de suivre le député qui vient de parler juste avant moi.
Mm-hmm.
Je suis content du fait qu'il soit d'abord de la majorité et de sa sincérité d'avoir reconnu quand même que cette majorité qui était constituée, n'est-ce pas, elle s'est laissée faire pour certaines questions d'ordre social. En tout cas, il y avait un laisser-aller là-dessus.
Mmh.
Alors, moi, je ne peux pas rejeter tout ce que cette majorité ou les parlementaires en général ont fait, dans ce sens que il y a certaines lois qui ont été votées et en tant qu'autorité qui légifère les lois de la République, ils ont fait quelque chose. Parce que les lois qui nous régissent actuellement, ce sont eux qui les ont traités, qui les ont votés. Sur ce point-là, je suis d'avis que, disons, tu as bâti un travail de titan, mais pour certaines questions, il faudrait en tout cas que cette majorité qui sera constituée prochainement puisse avoir un cœur. Hein, peut-être que pour certaines questions cruciales qui relèvent du social et du congolais. Je pense que c'est dans ce sens-là que la population aura une confiance totale dans ses représentants et plus particulièrement à la majorité qui ira constituer.
Merci Alex de Kinshasa. Vous avez interpellé la prochaine assemblée par rapport à cela, mais tout n'a pas été négatif. Nous avons Moïse Mpala Kiabou qui nous a écrit des Gaillards en France qui dit ceci. Pour lui, le bilan des 5 ans de l'Assemblée nationale est largement négatif. Il est revenu beaucoup plus par rapport à l'application des résolutions des différentes commissions, que ce soit sur le dossier des passeports, l'affaire des coopératives d'aide internationale, le dossier du découpage territorial, la loi électorale, le dossier de la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Et tout ça, beaucoup d'affaires, il a dit pour lui que cela a été négatif. C'est ce qui fait que beaucoup de compatriotes, surtout ceux qui sont à l'extérieur, ne sont pas contents parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas eu vraiment de sanctions envers le pouvoir exécutif ou bien les gestionnaires initiés par les membres de l'Assemblée nationale. Emmanuel Debouni a dit ceci, le travail abattu par les parlementaires est à féliciter, même si quelques failles sont à noter à leur passif, notamment dans la revendication de leurs primes, l'opportunisme de certains armes, le clientélisme aussi, bref, les antivaleurs ont caractérisé aussi l'esprit de beaucoup. D'ailleurs, dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale a évoqué aussi un point négatif en ce qui concerne les comportements personnels des membres de l'Assemblée nationale pendant cette période. Nous allons écouter Archip de Kipi, et on va revenir à vous, professeur Mbebois, pour commenter encore le point de vue de ces auditeurs. Archip, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Kipi dans les bandes d'Ondo, on vous écoute.
Bon, moi, vraiment, je suis trop inquiet, vraiment, du bilan de l'Assemblée nationale par rapport aux actions menées durant les 5 ans. Mais par rapport aux promulgations des lois, vraiment, là, je leur fais ici un coup de chapeau. Le président de l'Assemblée nationale, c'est Évariste Moussa. Là, du coup, là, je leur fais ici vraiment. Mais par rapport à nos représentants, moi-même, d'abord, par rapport à moi seul, je n'ai jamais vu l'un des représentants de ma ville intervenir à l'Assemblée nationale et prendre la parole. Mais au moment des élections en 2006, au moment où ils battaient leur campagne, ils demandaient seulement « Nous serons votre porte-parole au niveau de l'Assemblée nationale. » Mais jusqu'au jour même où ils ont clôturé le plénière de l'Assemblée nationale, je n'ai jamais vu aucun de nos députés, de nos représentants donc, intervenir. Bon. Ce que je dirais encore, c'est l'interpellation y a beaucoup de ministres
qui
ont été interpellés, mais il n'y a eu aucun changement de ce côté-là. Mais ce que je demanderais, c'est qu'on a déjà un autre président en place, nous croyons que nous aurons un autre gouvernement, nous avons déjà un gouvernement en place. Mais à ceux-là qui viendront, comment est-ce qu'ils fassent un grand effort pour que cela ne puisse plus encore revenir dans notre pays.
Merci Archip, nous allons donner la parole directement au professeur Mbebois. Vous avez suivi ces auditeurs qui sont encore revenus, qui ont évoqué les raisons, hein, et aussi un député qui a pu reconnaître cette difficulté qu'ils ont eue à pouvoir sanctionner. Mais quand on regarde la manière dont tout cela a fonctionné, parce qu'il y a un éditeur qui a évoqué ces problèmes de l'intervention, des débats, on s'est rendu compte que pendant le 5 ans, on a eu presque le même député qui sont passés au perchoir, qui intervenaient, qui proposaient, qui discutaient, et même qui interpellaient. Et on s'est rendu compte même que c'est une minorité de qui prenait la parole, et beaucoup d'ailleurs. Il y en a même qui disent ils ne les ont pas vus intervenir. À quoi a été dû cela? Est-ce que le problème de volonté, est-ce qu'il y a un problème de raison, des choses à dire, c'est, ou tout simplement c'est un problème, entre guillemets, de capacité de pouvoir assumer son rôle en tant qu'élu et professeur?
Je pense que, en ce qui concerne les parlementaires, les députés eux-mêmes, je pense que c'est d'abord un problème de capacité, parce que passer devant tous les pairs pour parler, il faut avoir quelque chose à dire.
Mm-hmm.
Et donc, pour avoir quelque chose à dire, il faut préparer cela et mieux préparer également. Donc là, je crois que c'est un problème personnel de capacité.
Mmh.
C'est aussi un problème de l'intérêt que l'on a à servir, à travailler avec efficacité. Il y a des gens dans la vie qui recherchent constamment l'efficacité dans ce qu'ils font, et d'autres qui préfèrent se contenter de la moyenne, donc de faire le minimum. Donc là, c'est des choses qui existent. Et il y a aussi, au niveau des partis politiques ou des groupes, parlementaire, la question de ceux qui dirigent ces groupes, ceux qui programment leurs membres.
Mmh.
Est-ce qu'ils facilitent la tâche à tout le monde, ou parfois il y a des petits coups qui font que les uns sont favorisés lorsqu'ils veulent parler, et les autres sont un peu démotivés ou découragés pour le programmer.
Mmh.
Ça, c'est une question interne, mais en gros, je pense que c'est un problème de qualité personnelle, parce que pour ce qui est des projets, par exemple, disons des propositions de loi, il faut quand même être un peu capable pour concevoir une loi et déclencher la procédure de faire que ça soit présenté chez les collègues, etc. Mais dans les interventions qui sont passées, je crois qu'effectivement les gens continuent à parler négativement du travail des parlementaires, pas dans le volet de production de loi,
de là, non.
Des textes,
mm-hmm.
mais surtout dans le volet de contrôle. Donc, le parlementaire sur les gestionnaires, je crois que c'est cela. Même le représentant, disons, le secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle qui parle, moi je pense que dans son rôle, il ne doit pas se féliciter. Parce que justement, ceux qui gèrent le côté parti n'ont pas été à la hauteur de leur tâche. Ça veut dire que dans notre pays, on fait passer l'image que entre les dirigeants, on peut se couvrir. C'est cette image-là qu'aujourd'hui, on combat dans le monde.
Mm-hmm.
Donc, quelqu'un ne peut pas tricher, quelqu'un ne peut pas, par exemple, voler du denier public, espérer que ses collègues vont les couvrir. Donc, c'est ça le problème. Lorsqu'on on gère les affaires publiques, on doit les gérer dans l'intérêt général. Et donc, on ne peut pas montrer que en dehors de la rémunération qui est due, on peut encore se servir d'autres moyens de manière illégale. Et donc, au niveau de nos parlementaires, ça devrait être une discipline claire de ce côté-là. Donc, ceux qui gèrent doivent être en premier lieu contrôlés par leur parti qui les aligne, parce que c'est le parti qui les propose. Et donc, le parti congolais devraient se sentir responsables lorsque leurs membres qu'ils ont fait nommer à des fonctions gèrent mal, sont cités comme corrompus, comme des tourneurs de deniers publics. Or, apparemment, le parti politique, au moins les responsables du parti politique, restent indifférents jusque-là. Mais au besoin, c'est eux-mêmes qui sensibilisent les autres à protéger ceux qui font, qui sont compromis de cette manière-là. Donc, on doit changer. C'est une question de culture qu'on doit insérer dans notre pays, on doit introduire. Il n'y a aucun parti qui a intérêt à exceller dans cette protection inutile et coupable. Mm-hmm. Parce que tout le monde doit respecter les lois et les parlementaires qui élaborent ces lois doivent être les premiers à savoir que ces lois-là doivent être respectées parce que c'est eux qui les ont conçues. C'est eux qui ont la possibilité de formuler ça dans ce sens ou dans l'autre. Une fois qu'ils ont formulé que ces lois sont promulguées par les chefs de l'État, les lois doivent être respectées par tout le monde. Mmh. Donc, ils ne doivent pas chercher les formules, expliquer qu'entre eux, ils parlent, ils s'exhortent à une bonne gestion. Non, ils doivent introduire une bonne moralité à l'intérieur de leur parti, de manière à ce que leur mandataire, leur personne qu'ils composent à des fonctions, puissent se sentir quand même responsable de la réputation de leur parti et qu'ils ne travaillent pas pour vilipender ou faire la honte à leur parti, mais qu'ils travaillent pour que, grâce à leur bon travail, leur parti soit soutenu par la population et soit voté quand il y a les élections. Vous voyez quelqu'un qui est de la majorité, qui est du côté de ceux qui gèrent, ne peut pas dire non, de leur côté, ils encourageaient les gens à changer. C'est en public là qu'ils étaient solidaires avec ces gens qui étaient parfois vilipendés. Donc je crois que cette pratique-là, on doit petit à petit, progressivement, aller vers des pratiques qui sont propres, qui sont saines. Parce que vous voyez, chaque fois, lui, il est député. Il a vu comment c'est très difficile de convaincre la population dans les votes. Une fois élu, pourquoi être complaisant avec les gens qui, eux, ne sont pas élus et qui profitent de leur légitimité? Parce que ceux qui ont la légitimité sont des gens qui sont élus, là, des députés, etc. Et ils profitent de cette légitimité pour faire n'importe quoi et bénéficier d'une couverture comme ça complaisante. D'ailleurs, les auditeurs les disent clairement.
Voilà, on va revenir à vous, professeur, le temps d'écouter Pascal Tétatananga, mais aussi M. Clément Tancourt, qui est député de l'opposition, parce qu'on a écouté un député de la majorité autour de la faiblesse du contrôle parlementaire. On va les écouter aussi et revenir à vous, on tend vers la dernière partie de cette émission.
Parole aux auditeurs. Par internet, ca@radiookapi.net.
Pascal, vous êtes à Kananga, au Kassa Occidental, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
On vous écoute, Pascal.
Oui, je commence d'abord par m'inscrire en ce qui concerne la réaction du secrétaire à la majorité. Comment lui peut dire que non, ils avaient un principe qui disait non, toute motion qui vient de l'opposition, on doit la rejeter. Mais il faut être des inconscients pour avoir un tel principe. Comment voulez-vous que cette motion, qu'elle soit en faveur ou en défaveur du peuple, vous la rejetez parce que vous ne faites pas partie de la majorité? Et chose grave, il nous dit d'avoir confiance à ces députés qui vont constituer une deuxième majorité. Mais nous regrettons les députés qui ont constitué la majorité de la première législature ont été votés par le peuple. Mais qui n'ont pas eu à satisfaire le peuple pour satisfaire leur famille politique. Mais combien à plus forte raison ils vont satisfaire le peuple, d'autant plus qu'on est en train de décrier des fraudes massives en faveur des députés de la majorité partout par des falsifications de bureaux de vote. Vraiment, ça, ce n'est pas une raison à avancer. Deuxièmement, quand vous faites un pas en arrière, de la manière dont cet ensemble a été dirigé par le célèbre Vital Kamerhe, qui était effectivement une église au milieu du village, vous allez vous rendre compte que quand il y avait de plénière, les gens accouraient au cinéma pour voir comment ça se fait. Mais depuis que l'autre président, que je ne vais pas citer, a pris cette institution, et surtout qu'il est imposé par l'autorité morale, on ne sait pas ce qui se passe à l'Assemblée nationale.
Oui, Pascal.
On n'a pas confiance à cette
voilà, majorité.
Pascal. Nous attendons qu'on commence seulement à nommer des députés, on est les négociateurs avec les élections.
Pascal, mais je crois bien que le président de l'Assemblée nationale ont été tous élus par les députés, sont les députés eux-mêmes qui procèdent aux élections.
Et
d'ailleurs, oui, Pascal.
De la part de l'autorité qui sont votées intermédiaires,
voilà.
Ce n'est pas un choix vraiment judicieux. Si
oui, Pascal. Et d'ailleurs, les plénières, que ce soit du temps où l'Assemblée nationale était dirigée par M. Vital Caméré ou par les professeurs Évariste Beauchard, toutes les plénières sont toujours retransmises, n'est-ce pas, à la télévision. Ce qui veut dire que les gens peuvent toujours le regarder, savoir ce qui se passe, mais pour être très décourageant, vous pensez qu'il n'y aura pas de changement quand même on pourra avoir une nouvelle Assemblée nationale. Merci beaucoup, Pascal de Kanga. Monsieur Clément Tancourt, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez suivi cet auditeur d'ailleurs qui s'inquiète et pour lui, il pense que les choses ne pourront pas s'améliorer parce que dans cette émission l'a dégagée. Et bien sûr, c'est que les auditeurs, qui sont les électeurs, pensent du travail abattu par l'Assemblée nationale. Mais tous sont d'accord qu'en ce qui concerne l'élaboration des lois, ça a été bien fait. Et beaucoup de lois ont été adoptées. Il y en a qui ont été déjà promulguées. Mais le problème réside au niveau du contrôle. Les électeurs n'ont pas senti le résultat, n'est-ce pas, des contrôles parlementaires, que ce soit pour les ministres, que ce soit pour les gestionnaires des entreprises. Et on a eu M. Didier Molisseau qui a pensé qu'il y avait ce problème de respect des principes par rapport à la majorité, à l'opposition. Mais ils ont eu beaucoup de débats en interne, n'est-ce pas, en ce qui concernait la manière dont les gestionnaires s'est comporté. Mais pour vous, qu'est-ce qui a fait que l'Assemblée nationale puisse avoir ces résultats difficiles en ce qui concerne le contrôle parlementaire?
Oui, merci. D'abord, je pose totalement le point de vue de M. Pascal. Je crois que le point de vue de la majorité de la population. Sur le plan contrôle parlementaire, je crois que le bilan est tout à fait négatif. C'est un réel échec. Il a bien rappelé, quand on a commencé le tenir avec Vital Caméré, on sentait que la démocratie vivait. On sentait avec les débats qu'il y avait vraiment, vraiment le besoin, la volonté de mettre à nu tous les cas de gestion, de contrôler réellement l'exécutif. Là, on l'a senti avec Vital Caméré. Et nous avons senti qu'il y avait réellement cette facilité ou cette liberté d'opinion de la part des députés aussi bien de la majorité que de l'opposition qui se sentait obligée de régler les préoccupations de la population. C'est comme ceux qui les avaient mandatés. Mais nous sommes arrivés à une situation où on a dû imposer un président venant de la majorité présidentielle naturellement, qui est le secrétaire général du parti et le plus ancien de la majorité, qui est venu tout simplement piéger les travaux de l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, depuis ce jour-là, n'a ressemblé qu'à une pièce de résonance, mieux encore, une chambre d'enregistrement de l'exécutif. Donc l'Assemblée nationale a perdu cette prérogative qui était de contrôler réellement à main et conscience et surtout fonctionner, parce que le contrôle ne veut quelque chose que si la sanction suit. Donc je vois qu'à ce stade-là, ceux qui veulent nous dire et qui prétendent qu'il y a une politique qu'il faut respecter parce que quand ça vient de l'opposition, la majorité doit se braquer. Je trouve ça tout à fait triste pour une démocratie parce que quand quelqu'un vole, comme nous l'avons épinglé dans beaucoup de cas de malversation financière, des ministres, des mandataires publics qui ont volé, que nous avons épinglé noir sur blanc, vous l'avez vu, ils ont balayé tout simplement parce qu'ils devaient protéger les membres de la majorité présidentielle. Et là, nous disons c'est quoi? Nous disons que ça, c'est une façon de couvrir le voleur. Donc, quand on vient couvrir un voleur, c'est qu'on est voleur comme lui. Donc, ceux qui l'ont fait, ils se partagent le butin avec ce voleur-là. On ne peut pas nous parler d'une logique de majorité opposition. Nous le voyons à travers le monde. Quand un ministre est impliqué dans une fraction quelconque, il démissionne ou on le démet. Nous reconnaissons qu'est-ce que nous avons vu. Ils ont protégé à 100% leurs amis parce que certainement ils se partagent le butin. Donc je partage cette inquiétude qui veut que bon, si demain par aventure, d'aventure, nous avons encore la même majorité qui revient, avec tous les petits papillages que nous avons au niveau de la CENI, le centre de compilation, où les irrégularités vont probablement amener ceux qui n'ont pas été élus à venir siéger à l'Assemblée nationale. Si nous avons par malheur une Assemblée nationale avec cette même majorité et les mêmes acteurs, je crois que ce sera une véritable tragédie.
Oui, vous avez dit, attention, vous avez voulu faire la comparaison. Oui, parce qu'il y a Pascal qui en a évoqué, mais un peu rapidement. Oui, mais quand on regarde les résultats, bien sûr, avant, vous avez eu cette liberté de pouvoir débattre, de pouvoir dénoncer, et après, vous dites qu'il y a eu, vous avez été pris en otage, vous n'avez pas pu avoir cette liberté. Mais le résultat reste le même. Quand bien même, vous avez cette liberté de débattre, mais on n'a pas vu des mandataires, des ministres sanctionnés. Ce qui veut dire qu'avant et après, il y a été la même chose.
Je vous donne un cas. Je suis levé, vous savez que je suis celui qui a soulevé le plus de questions orales à l'Assemblée nationale pendant cette législature. Donc, sur mon palmarès, j'ai le maximum de questions orales que moi j'ai soulevées. Mais la plupart des ministres, je ne vais pas citer les noms, il y en a au moins 4 ou 5 qui, à la suite de ce débat, pas qu'ils étaient vraiment prouvés qu'ils avaient vraiment. En tout cas, si vous êtes tombé dans toutes ces dérives, ces ministres ont été tout simplement, en tout cas, remerciés. Il y en a, j'étais 4. Rappelez-vous même de la question d'un Libanais, quand j'avais demandé qu'on puisse l'expulser, celui qui vient prendre toutes les écoles, qui vient tenir les écoles de nos enfants à situation. C'est pendant ce moment-là que nous avons obtenu la. Qu'il soit expulsé de ce Libanais. Donc vous voyez que, Camerès, c'est vrai que ce n'était pas à 100% ce que nous attendions, mais il y avait ce déclic-là, c'est-à-dire que nous nous sentions à l'aise pour débattre. Mais aujourd'hui, nous n'avons même pas l'occasion de débattre. Parfois, les séances ne sont pas publiques, c'est parce qu'elles sont tout simplement censurées d'une certaine manière. Voilà. Ne parlent même pas. Parler. Quand ils parlent, on leur prend la parole.
Voilà, merci beaucoup, M. Clément Tancou. On a clôturé les sessions depuis le jeudi 15 décembre, désolé, qu'on ne saura plus revenir à ce qui a été fait, mais tout le monde souhaite qu'à la prochaine législature, les choses puissent marcher et que ce qui a été décrit ne puisse pas revenir. Je vous remercie vraiment de nous avoir apporté cet éclairage. Nous avons Guy Franck, qui est ici à Kinshasa, et puis nous allons terminer avec vous, professeur Mbeba, pour conclure cette émission. Guy Franck, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Malheureusement, on vous prend à la fin de l'émission. Les derniers auditeurs n'ont qu'une minute et demie pour donner leur point de vue. On vous écoute rapidement.
Le point de vue par rapport au Parlement, et surtout le dernier, vraiment, c'est un Parlement qui nous a déçus, avec un bilan largement négatif, où c'était transformé en salon de beauté, où il y avait des dames qui faisaient n'importe quoi pour leur beauté, nous les électeurs en train de leur contempler, les autres étaient surnommés de mannequins du Parlement, pour vous dire qu'il n'y avait pas du sérieux. Et c'était donc transformé dans un ring de boxe, on en a vu, vous êtes témoin. Et toute la République montant, et c'était vraiment un mauvais choix. Qu'on a d'abord vu par leur réaction. Vraiment, cette fois-ci, comme nous avons eu le changement, que nous étions en train d'attendre très très longtemps, et le changement vraiment qui sera radical, nous demanderons à l'actuel Parlement, parce que c'est ici là qui sera promulgué, de prendre ses responsabilités.
Merci beaucoup.
Comme il faut. Comme un Parlement responsable.
Merci beaucoup, Guy Franck, de ce point de vue. Le prochain Parlement puisse être responsable. On termine avec Franck Desiens qui dit ceci. Les bilans de notre Assemblée nationale est, selon moi, mitigé, je dirais même plus décevant. À part quelques projets de loi suggérés, votés et promulgués, des manipulations, des complicités et complaisances, des intimidations venant d'en haut, bref, le règlement idéologique, le manque de vision sociale, le manque d'objectivité, activités, les coups bas, les intrigues de ce genre. Ce sont des réalités qui font que le bilan de cet organe législatif n'ait pas beaucoup de résonance palpable du côté de la population. C'est regrettable pour le peuple congolais qui n'est plus que pour cible de distraction. Je ne crois pas encore à la bonne volonté de ces députés qui vont venir pour le prochain Parlement. Et enfin, Jean Delacroix, depuis Durban en République sud-africaine, dit ceci: d'une manière générale, le travail abattu par l'Assemblée nationale durant ces 5 dernières années est à moitié positif, dans le sens que les parlements n'avaient pas été efficaces dans les contrôles de l'exécutif, mais d'une manière particulière, les promesses données par les députés provinciaux, qui naturellement de ma propre circonscription, celle des Fizi, n'ont pas été réalisées, même les indices n'ont pas été vus. Ils venaient nous distraire avec des petits cadeaux et surtout des vareuses en organisant les tournois locaux. Et ils oubliaient que ils ont été élus pour nous représenter. Professeur Mbeboa, dans deux minutes, eu égard à tout ce qui a été dit par les auditeurs, qu'est-ce qu'on peut retenir dans cette émission autour du travail de l'Assemblée nationale qui vient de clôturer, bien sûr, ses travaux le jeudi passé?
Bon, ce qu'on peut retenir, c'est que, le Parlement a fait son travail, mais le peuple a des attentes beaucoup plus élevées. Ça veut dire que les parlementaires doivent plus être à l'écoute du peuple et travailler pour le peuple qui les a mandatés, au lieu de se fixer eux-mêmes des objectifs et une dynamique qui n'est pas au service de la nation. Dans ce sens-là, je crois que avec les élections que nous venons d'avoir, les députés ou les députés qui seront élus ne resteront pas indifférents,
merci,
ne resteront pas insensibles, et ça c'est une bonne chose. Donc au lieu simplement de faire les choses comme c'est le dernier tribunal les dénonce, les députés doivent garder conscience qu'ils sont représentants du peuple et qu'ils doivent défendre les intérêts de la population qui compte beaucoup sur eux pour se développer et améliorer les conditions dans notre
pays. Merci beaucoup, professeur Mbeboa Kalala. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes analyste politique et professeur d'université. Nous disons merci à tous les auditeurs qui ont été avec nous durant ces quelques 56 minutes. On se retrouve demain mardi pour une nouvelle émission et nous allons parler santé avec l'épidémie de la fièvre typhoïde qui sévit depuis près d'un mois à Kikwit dans la province de Bandundu. D'après le ministère de la Santé, 1031 cas ont été enregistrés, dont 19 décès, avec 60 cas des complications. Pour auditeurs, que proposez-vous pour lutter efficacement contre cette maladie? Soyez nombreux à vous inscrire à pa@radiocapi.net. Merci à toute l'équipe, Ikumputu, Clovis Oubula et Mimi Kindo pour la production de cette émission que vous allez retrouver à 20h, heure de Kinshasa. Au revoir.
L'émission Parole aux auditeurs que vous venez de suivre était une rediffusion. Thank you.